Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous aviez toujours voulu le faire, mais vous n'osiez pas nous le demander. Nous le demander, c'est un peu difficile à dire. Dans une heure pourtant, nous aurons voyagé ensemble tout autour de la Bretagne à la découverte de ces sites sacrés.
Sans oser le demander, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et nous l'aurons fait avec notre indispensable équipage, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Aloïse Guérin, Laurence Genepin, Jean-Christophe Francis et Jordan Fuentes. Peut-être parce qu'elle est entourée par la mer sur trois de ses façades, ce qui en fait, comme le disait Michelet, une île continentale. Peut-être parce que ses habitants sont réputés taiseux. Peut-être parce que son histoire singulière et légendaire impressionne. La Bretagne a tout d'un territoire sacré à part et mythifié. Si la pratique religieuse y a décliné comme partout, son territoire est constellé de signes qui rappellent la ferveur des fidèles, d'églises en monastères, d'abbayes en pèlerinage, sans oublier les croyances païennes. Et c'est sur ces chemins que nous partons aujourd'hui avec vous.
C'est comme si la terre n'était pas ronde, la Bretagne. Je veux dire par là que c'est comme si il y avait un établissement sur une terre plate, comme une feuille, effectivement. Eh bien, il y aurait la Bretagne qui ferait partie du programme. Et c'est là que je me perdrais, je m'arrêterais là. Je dirais, c'est là que ça se passe pour moi. C'est comme quand on touche un corps. Il me semble que si je touchais la terre, les yeux, si j'étais aveugle, je reconnaîtrais la Bretagne tout de suite au toucher.
L'écrivain Georges Perros dans un entretien avec Jean Dève du 16 février 1967. Bonjour à vous, Aliette Armel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes historienne de formation, mais également critique littéraire, romancière et essayiste. Vous avez publié des livres sur Duras, Léris, Le Clésio, et vous êtes aussi une grande amoureuse de la Bretagne, dont vous êtes en réalité originaire, ou au moins pour moitié, puisque vous avez grandi à la fois en Bretagne et puis à la fois à Paris.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la migration vers Paris s'est faite par mon grand-père, par mes grands-parents. Alors évidemment, ils sont revenus en Bretagne et c'est là où j'ai passé tout le temps de mes vacances d'enfant, qui étaient déjà très longues à l'époque. Donc j'y passais 4 mois par an. Mais effectivement, je suis née à Paris et j'ai travaillé finalement beaucoup de temps à Paris.
Donc la Bretagne pour vous, c'est du côté de Trébeurden, à Plougrescamp, très exactement, c'est dans le Trégor.
Alors en fait, Trébeurden, c'était la station balnéaire qui était en train de se créer et où mon grand-père a construit sa maison en 1933. Et Plougrescamp, c'est à 20 km ou même peut-être 25 de Trébeurden, et c'est là où j'ai acheté ma propre maison en 2002. Et entre-temps, mon père et ma mère avaient leur manoir à Tréguier entre les deux.
Alors vous publiez un livre intitulé « La Bretagne, terre de sacré ». En ce moment, aux éditions Desclés de Brouwer, vous y faites le portrait d'un pays où on est sans cesse confronté à un certain infini, à la fois temporel et aussi spatial. C'est ça qui caractérise la Bretagne, c'est l'infini devant soi et l'infini derrière soi.
Oui, et aussi c'est inscrit dans les paysage naturellement, avec ces rocs qui viennent des tout premiers temps de la constitution de la planète, puisque Armorica était déjà le nom d'un sous-continent il y a des millions d'années, alors qu'il n'y avait pas du tout de la Terre n'était pas du tout formée comme elle l'est maintenant. Donc ces pierres sont vraiment venues de très très loin et elles sont dans une certaine forme, elles nous donnent cette sensation d'éternité, mais aussi le regard va très loin. Maintenant, il n'y a plus d'Himalaya breton, ce qui était le cas aussi à une autre
c'était
période.
C'était quand même pas si haut que l'Himalaya, les montagnes
ici. Eh bien si, c'est
5000 mètres, je crois.
Voilà, et bien voilà. Et là, maintenant, on est à 400 mètres maximum.
C'est plus tout à fait la même échelle.
Voilà, mais ça vous donne une échelle temporelle, parce que pour passer de l'un à l'autre, pour arriver à éroder, est-ce que l'érosion fasse son travail, on voit bien le temps qu'il a fallu qu'il passer. Et puis évidemment, quand on est en bord de mer ou quand on est en haut d'un de ces monts qui donnent sur la mer, eh bien on va avoir une vision extrêmement lointaine, une vision vers l'infini et quelque chose qui porte vers beaucoup d'interrogations parce que on voit dans ces paysages tout un tas de phénomènes qui se vont... Déjà, le lever, le coucher du soleil. Et moi, je me suis toujours demandé ce que nos ancêtres, ces tout premiers qui vivaient dans ces lieux, qui étaient déjà formés de cette manière, qu'est-ce qu'ils pensaient face au lever, au coucher du soleil? Qu'est-ce qu'ils pensaient face à ces rayons, ces lumières qui éclairaient tout d'un coup un rocher et pas le reste? Et face à tous ces phénomènes, et quelque part, j'ai l'impression que la réponse, en tout cas, des questions qu'ils se posaient, on les trouve dans d'autres pierres, celles qui ont été érigées par ces hommes-là, 7000 ans avant le temps présent, il y a 7000 ans, du côté de Karnak, des menhirs ont surgi de partout, et des dolmens, et petit à petit, au fil des millénaires, se sont répandus sur toute la Bretagne.
Vous pensez qu'on a une façon de voir la vie qui est un petit peu différente quand on vit comme ça, face à cet infini
Alors c'est ce que moi j'ai éprouvé, c'est ce que d'autres ont dit. Vous avez parlé de Leclésio tout à l'heure, c'est aussi ce qu'il exprime par rapport à son sentiment breton qu'il a développé dans son dernier livre avec ses souvenirs d'enfance. Il y a quelque chose dans cette terre, oui, avec la force des éléments qui s'y trouvent, cette présence des éléments, c'est ce dont je parle dès l'entrée de mon livre. Elle est peut-être beaucoup plus forte qu'ailleurs.
Et vous dites que on se trouve sur les rails de l'absolu quand on est en Bretagne, en reprenant cette expression d'un breton d'adoption, le poète Georges Perros qu'on entendait
tout à l'heure, oui, qui alors, ça m'a beaucoup touchée d'entendre cet extrait que vous avez passé parce que il parle si je devenais aveugle. Et en fait, il est devenu, il ne pouvait plus parler à la fin de sa vie et il était obligé de s'exprimer par une ardoise. Et donc, c'est cette préscience de perdre un sens qui était là, qui m'a beaucoup touchée. Et lui, effectivement, était extrêmement sensible à tous ces éléments et c'est pour ça qu'il était venu s'installer en Bretagne.
Il est devenu breton, il s'appelait pas Perros d'ailleurs.
Alors Perros, c'est Perros Guirec, c'est là où il passait ses vacances d'enfant. Et c'était Georges Poulot, oui. Et c'était quelqu'un qui avait une vie à Paris, qui était un ami de Gérard Philippe, qui était un ami... Enfin vraiment, il était très... À Paris, il avait une vie tout à fait passionnante, même s'il n'était pas mondaine, parce que ce n'était pas un mondain. C'était quelqu'un qui voyait énormément de gens, mais parlait souvent de choses profondes. Et c'est ça qu'il a réussi à transposer à Douarnenez, où il est allé vivre à un moment de sa vie avec femme et enfant. Mais il avait le Café du Port, où il entretenait beaucoup de relations avec les marins, les pêcheurs, avec lesquels il allait en mer, avec lesquels il buvait beaucoup, avec lesquels bon, il avait vraiment ce souci. Il était très bien avec ces gens-là. Mais j'ai appris aussi, ce que d'autres savaient sûrement, que en fait, beaucoup de gens venaient le voir, même de Paris. Et puis des jeunes des écoles d'art des environs qui savaient que Georges Perros était là, et il recevait tout le monde, et dans cette Bretagne, il était dans son élément.
Donc on peut devenir breton alors, Aliette Armel, on n'a pas besoin d'être né sur cette terre-là.
Alors effectivement, il y a beaucoup d'avis, parce que vous avez les nés natifs qui vous diront que non, on n'est jamais, on ne peut pas devenir breton, qu'on doit l'être en étant né là-bas. Et vous en avez d'autres qui effectivement, comme Georges Perrault, s'acclimatent en y vivant à l'année, d'autres encore qui... Comme moi, je n'ai jamais fait le pas de m'y installer à l'année. Donc je navigue entre les deux, tout en me sentant profondément ancrée dans cette terre et en sachant que depuis ma première prise de contact, sans doute, quand j'ai appris à marcher, donc il y a très très longtemps, c'est une terre grâce à laquelle j'ai vécu et grâce à laquelle, là, on trouve une énergie beaucoup en parlent de ça. C'est une terre exigeante, qui exige, mais qui vous donne beaucoup en retour.
Alors, on peut citer La Pointe du Raz dans quelques-uns de ses états. C'est un poème-reportage de Georges Perros auquel les auditeurs qui le souhaitent pourront se référer. Évidemment, la Bretagne, c'est l'imaginaire celtique. Et ça aussi, c'est un infini, l'infini de la mythologie. Et de cette mythologie-là, en particulier, Aliette Armel.
Alors, la question celte, ça, c'est une question extrêmement compliquée. C'est-à-dire que vous avez effectivement tout un imaginaire, y compris des gens qui ne sont pas bretons, qui est habité par les Celtes bretons et la Bretagne celtique. Et vous avez ensuite les historiens qui, évidemment, travaillent sur les textes, sur les traces. Alors, il se trouve qu'il y a un manque de sources écrites et même des sols trop acides qui rendre plus difficile certaines conservations d'objets archéologiques ou d'artefacts, comme on dit. Et il apparaîtrait qu'en fait, les Celtes auraient évité la Bretagne, disent certains historiens.
Mmh. Et vous y accordez du crédit à cette hypothèse ?
Bien, je suis à la fois scientifique et quelqu'un qui a un imaginaire suffisamment développé pour des fois écrire des romans. Donc, je suis sensible aux deux. Mais la part scientifique a l'air de dire que vraiment, les Celtes étaient évidemment en Gaule, que c'était un nom qui peut-être était donné, enfin, les Gaulois étaient un nom de certains Celtes, et mais qu'en fait, certains Celtes ont fini par aller plutôt vers la Grande-Bretagne, et le celtisme serait revenu peut-être de l'autre côté avec d'autres aspects dont on va sûrement reparler, comme la christianisation et le christianisme celtique.
Donc ce serait un celtisme de seconde vague presque.
Ça serait une forme de... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait des Gaulois qui sans doute avaient beaucoup de similitudes dans leur culture avec ceux qui étaient historiquement celtes et qu'on retrouvait dans d'autres régions de Gaule, et par ceux qui sont venus ensuite, les Gallois, les Irlandais, est revenu une certaine forme de celtique. Et alors après, vous avez tout ce qui a fructifié dans l'imaginaire, à la Renaissance, à d'autres périodes historiques, vous avez Ernest Renan, qui a construit...
Qui habitait en Bretagne, d'ailleurs.
Qui était né à Tréguier, qui est une des gloires de Tréguier, et qui, lui, a construit tout un texte sur la race celtique. C'était l'époque où on attachait beaucoup d'importance aux races. Et la race celtique, il l'a étudiée avec tout un tas de considérations qui ont donné une forte... C'était aussi cette façon de... Cliver les choses par la race, est quand même aussi politiquement connotée. Mais elle a aussi, et alors dans les années 70, c'est devenu quelque chose de très très fort en Bretagne, avec tous les mouvements qui sont nés celtiques.
Des mouvements qui sont aussi des mouvements indépendantistes, et c'est ça qui est aussi très étonnant.
Alors là, l'indépendantisme.
Ça qui est aussi très étrange, même Aliette Armel, c'est à la fois le sentiment qu'on appartient quand on est breton à un peuple breton, et en même temps un parti indépendantiste entre guillemets qui n'a jamais réellement pris la place qu'il aurait pu ou qu'il a pris dans d'autres régions de France.
Le combat pour l'indépendance de la Bretagne, il est aussi vieux que le nom de Bretagne. Et ce nom de Bretagne, il est apparu au moment où l'autre côté de la Manche, qui était quelque chose de facile à traverser, même à l'époque, avec des petits bateaux qui s'appelaient des couragues, qui étaient d'origine irlandaise et d'origine galloise. Donc ces petits bateaux traversaient la Manche. Et donc ceux qui fuyaient du Pays de Galles en particulier, et de la Cornouaille, les Anglais et les Saxons, sont venus jusqu'en Bretagne. Et là, ils ont retrouvé un pays qui avait été aussi très déserté par le fait que l'Empire romain sur ses marges avait été abandonné et que beaucoup de peuples bretons de l'époque commençaient à lutter pour leur indépendance. On en est déjà là au tout début. Et ensuite, ce qui se construit comme un peuple avec d'un côté les arrivants de l'autre côté de la mer et de l'autre côté ceux qui étaient déjà là. Ce qui se construit, c'est aussi une lutte pour l'indépendance et une lutte pour la conserver par rapport aux Francs avec lesquels les arrivants ont tout de suite des relations conflictuelles, des relations diplomatiques, pendant que ceux qui étaient arrivés, ils arrivaient en groupes familiaux, en clans, et ils arrivaient avec des moines, avec des gens qui convertissaient. Donc ils avaient apporté avec eux le christianisme et ceux qui le mettaient en œuvre, et eux aussi ont joué un rôle dans la déclaration d'indépendance de ce qui était au départ l'Armorique, la petite Bretagne, et qui est devenue la Bretagne.
C'est encore très présent quand même, ce sentiment d'appartenir à une région spéciale de la France.
Voilà, une région spéciale de la France, et qui a toujours, et les rebondissements et les épisodes de ces revendications d'indépendance dans les relations avec la France. À un moment, la Bretagne est indépendante, à un moment elle est un royaume, à un moment elle est un duché. Et tout ça est resté très très vivant très longtemps, et se retrouve aussi dans les révoltes en 1675 contre Louis XIV, les révoltes sociales, les révoltes populaires, les révoltes de la Révolution, les révoltes récentes.
Alors on va remonter quand même encore un peu dans l'histoire, jusqu'à un temps immémoriel, celui de Carnac.
On dit que toutes ces pierres étaient autrefois un ancien cimetière gaulois. À chaque mort qu'il y avait, on y mettait une pierre, un riche, une grosse, un pauvre, une petite. La légende dit aussi que Saint Cornélie, poursuivi jusqu'au bord de la mer par les soldats païens, ne trouvant plus de vaisseau pour s'enfuir, se retourna et changea tous les soldats en pierre.
Quel âge as-tu, toi ?
6 ans.
Et toi ?
10 ans.
10 ans. Il y a longtemps que vous faites les guides ici ?
Oui.
Qu'est-ce qui vous a appris
Moi, j'ai appris avec les autres.
À l'école ?
Non, avec une vieille dame.
Avec une vieille dame ? Vous comprenez un petit peu ce que vous dites ?
Oui.
Qu'est-ce que c'est, ici, là ?
Ça, c'est des menhirs.
Et qu'est-ce que c'est, des menhirs ?
C'est des pierres.
Des pierres ? Qu'est-ce qui les a apportées ici, ces pierres ?
Il paraît que c'est la mer.
Il paraît que c'est la mer. C'est pas les hommes qui les ont apportées ici ?
Si, il y a des hommes, les Gaulois.
Les Gaulois ? Ça remonte à quand, les Gaulois ? Ça te dit quelque chose ? Tu sais pas quand c'était les Gaulois ?
Non.
Sans oser le demander sur France Culture. Et cet archive qui date du 14 juillet 1962, avec des enfants interrogés, Aliette Armel à Carnac pour l'émission Chefs-d'œuvre en péril. C'est vrai que la pierre, elle est omniprésente en Bretagne, elle affleure d'abord partout dans les paysages, et puis il y a cette tradition mégalithique qui est extrêmement importante. Vous parlez même d'une civilisation des pierres dont l'origine, l'épicentre, est la Bretagne.
Oui, effectivement, c'est des recherches nouvelles, de l'histoire nouvelle, qui permet de dire que à Carnac, sans doute, il y a 4700, je crois, avant Jésus-Christ, il y avait une sorte de civilisation fondée sur le commerce des haches de jade, et qui serait qui aurait une très forte richesse, et sans doute. À Carnac s'est développé un centre du monde occidental.
Donc Carnac était une
période.
Capitale mégalithique.
Voilà, ça serait ça. Effectivement, ça a été vraiment démontré par beaucoup de chercheurs à l'heure actuelle. Alors effectivement, on a l'archéologie avec les techniques de datation a fait des progrès absolument extraordinaires. On arrive à lire les symboles sur les pierres grâce à la numérisation de tout ce qui s'y trouve. On a fait des progrès extraordinaires et on avance, on recule dans la datation et on avance dans la compréhension, même si on ne sait pas encore. Alors, est-ce que, comme le dit l'enfant, à chaque fois qu'il y avait un mort, il y avait une pierre, sans doute pas. Mais on pense qu'en fait, il y avait les alignements de menhirs conduisaient à un dolmen sous lequel peut-être il y avait la tombe d'un chef très puissant. Et on relie souvent déjà ces monuments dont on comprend pas forcément le sens, pas tous les sens, il devait y en avoir beaucoup, y compris de la tout un travail sur la configuration du monde, sur le soleil au zénith qui apparaît certains jours dans l'alignement exact des pierres, au solstice. Donc on a vraiment, il y a des choses qui semblent très en avance, mais sans doute est-ce lié aussi beaucoup aux morts. Et la Bretagne, dès ses origines, et pendant tout le Moyen-Âge, et dans les légendes, et encore peut-être maintenant, est considérée comme une terre où la vision de la mort, où la cohabitation avec la mort est très très importante.
Encore maintenant, dites-vous.
Oui, parce qu'en fait, bon, déjà, alors c'était, on disait dans les traditions que c'était vraiment vers l'ouest. Le soleil se couche à l'ouest, la vie se termine à l'ouest. Et donc, il y a même des ossements qui étaient conduits, des restes des morts qui auraient été conduits jusque sur les terres de l'Armorique à l'époque pour être enterrés dans des nécropoles. C'est une possibilité. Les Celtes, là, on va y revenir, les Celtes avaient déterminé qu'il y avait une île, Avalon, qui était au large des côtes de Bretagne, et cette île, eh bien, c'est une île du renouveau, une île où la vie ne se terminait jamais, une île où allaient les morts, mais dans une forme de vie éternelle. Et c'est là où Tristan et Iseult vont aller, même si ils sont tués par comme c'est arrivé à la fin de leur vie. Donc là, et c'est pas pour rien que tout le 19e siècle est tenté par cette idée et que Anatole Le Braz, qui est un écrivain qui a fait beaucoup de collectages après Luzel, après d'autres collecteurs comme Villemarquet, qui a rassemblé le Barzaz Breiz, et tout ce travail de collectage qui a été fait sur les légendes et les chants bretons est très marqué par la mort. Et le livre d'Anatole Le Braz, c'est Les légendes de la mort.
Et évidemment, pour revenir à ces pierres levées qu'on trouve à Carnac, mais qu'on trouve partout en Bretagne. Il y a des menhirs absolument partout. Ils seraient donc à l'origine d'une civilisation qui se serait étendue. Alors il y a évidemment Stonehenge dans l'actuel Royaume-Uni, mais ça va très loin, ça va sur les bords de la Méditerranée. Comment est-ce qu'on peut imaginer que jusqu'en Tunisie, finalement, ce soit étendu à une époque si reculée, cette civilisation dont vous parlez, Aliette Armel?
Certains chercheurs déterminent effectivement qu'il y aurait une antécédence de certaines formes mégalithiques en Bretagne par rapport à d'autres régions du monde. Mais effectivement, il doit y avoir aussi le fait que, comme dans beaucoup de phénomènes que l'on n'explique pas dans les périodes historiques et préhistoriques, à certains moments, eh bien, les êtres humains, même séparés par de grands territoires, font la même chose et les mêmes découvertes.
Donc ça, c'est une possibilité scientifique aujourd'hui.
Voilà, donc il faudrait vraiment regarder les travaux des chercheurs. Mais effectivement, il y a des travaux qui disent, oui, qu'il y a une antécédence pour certains éléments du mégalithisme breton. Oui.
Est-ce qu'on sait comment ces fameux menhirs ont été finalement hissés? Puisque en Bretagne, terre de légende, on explique que c'est parfois des extraterrestres, parfois des fées. J'imagine que là encore, on doit avoir des explications scientifiques, non?
Oui, ben alors déjà, l'enfant tout à l'heure vous parlait du pape Corneille, de Corneille, un saint qui fuyait, c'était un des premiers papes et qui en fuyant, c'était une des légendes, aura réussi à transformer en pierre tous les soldats romains. Donc c'était un mégalithe, une succession d'un alignement mégalithique. Ou alors ça, c'est encore une légende. Alors comment on arrive à les hisser? On a essayé beaucoup de choses, de trouver beaucoup de réponses. Je crois qu'ils travaillent encore sous ces formes d'archéologie qui reconstituent comment est-ce que, avec les outils de l'époque, on pouvait les hisser, combien d'hommes ça suppose, comment on y arrivait.
Donc en refaisant.
Et puis les transporter, parce que des fois, il y a des transports. On vous explique ça quand vous allez dans la région de Carnac, des transports de pierres monumentales d'un endroit à l'autre, dont on se pose encore beaucoup de questions, oui.
Il y a Barnenez aussi dans la baie de Morlaix. Alors ça, c'est non seulement très beau, mais en plus André Malraux avait trouvé un surnom à ce site, le surnom de Parthénon mégalithique. Vous connaissez évidemment cet endroit, Aliette Armel,
oui,
vous l'écrivez dans votre livre.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous le décrire, nous?
Alors, écoutez, c'est au sommet d'un mont. C'est une orientation vers la mer et c'est ce qu'on appelle un cairn.
Mais immense, enfin, ça fait combien de mètres.
Et donc, il y a vraiment des dolmens qui ont été construits recouverts de pierres. Alors, il y a deux cairns et puis il y en a un qui a été tellement attaqué par l'entrepreneur à quel on a mis fin dans les années 50 à sa pratique. Et justement, André Malraux ensuite a pu classer
le
site.
Parce que c'était un entrepreneur qui voulait en faire un site touristique.
Ah non! Il récupérait les pierres parce qu'il avait eu à l'époque on disait pas le marché, mais c'est à lui qui avait été confié le fait de faire les routes départementales des côtés. Et c'est avec les pierres qu'il récupérait sur les cairns qu'il alimentait ses chantiers.
Et votre grand-père s'était petit peu élevé contre ça, je crois.
Alors mon grand-père c'est pas lui, il avait le pouvoir, mais dès qu'il l'a su effectivement, parce que c'est paru dans les journaux, parce qu'il y a eu un procès qui a fait jurisprudence sur le fait que on ne pouvait pas s'attaquer aux sites archéologiques de cette manière. C'était pas à l'époque tout à fait évident, surtout sur des sites mégalithiques. La préhistoire, elle a été balbutiante pendant longtemps. Et donc, la protection des monuments de la préhistoire n'a pas été facile.
Donc, il y a bien ce sacré qui remonte à ces périodes mégalithiques. Et puis, ensuite, un autre sacré qui est le sacré chrétien, parce que c'est un pays de religion, un pays de christianité, de christianisme, où il y a de nombreux saints. On parle de 7 saints fondateurs. Il y a Paterne et Corentin qui sont vraiment des locaux. Et puis il y en a d'autres, Aliette Armel, qui sont des importations, et notamment des importations d'Angleterre.
Alors en fait, il faut revenir à l'histoire que je vous racontais tout à l'heure. Ces clans qui fuient les Anglais et les Saxons et les envahisseurs dans la Grande-Bretagne, et donc le Pays de Galles, la Cornouaille et l'Irlande par moment. Et donc ces clans arrivent avec des politiques, avec des guerriers, avec des femmes et des enfants, et avec un ou plusieurs moines qui ont le désir d'évangéliser et aussi un désir d'érémitisme. Et tout ça étant fondé, cet érémitisme étant fondé sur celui de Saint-Antoine dans le désert. Donc on est dans des particularités qui viennent de ces régions-là. Et c'est ces moines qui sont d'excellents prédicateurs et qui vont rassembler autour d'eux les paysans, les gens qui sont dans ces régions, qui vont y établir un christianisme à la fois très populaire, à la fois très proche des éléments et effectivement à la fois le christianisme celtique. Saint-Patrick s'est élevé contre les anciens cultes que gardaient les druides. Mais
parce que les druides sont toujours présents dans l'imaginaire, évidemment.
Dans notre imaginaire, comme les Celtes. Enfin, là, c'est aussi. Mais effectivement, il y avait en Bretagne, il y avait en Irlande, du temps de Saint-Patrick, des magiciens qu'on appelait druides et qui, contre lesquels Saint-Patrick expliquait la Trinité avec le fameux trèfle qui est devenu le symbole de l'Irlande. Et donc, c'est arrivé tout cela en Bretagne, dans un pays qui était assez désertifié, et le christianisme s'est établi à ce moment-là avec des saints qui étaient, selon la tradition de l'époque, dans toute la chrétienté, ils étaient acclamés par le peuple. C'est-à-dire qu'en fait, le peuple se réunissait pour déclarer qu'un tel était saint, un tel était saint, et pour l'honorer et pour lui demander des miracles. On était dans un christianisme aussi qui était souvent très magique et qui le reste.
Et lié donc, vous le disiez, Aliette Armel, aux éléments. D'ailleurs, vous vous êtes bien rendu compte quand vous étiez enfant, parce qu'à l'âge de 4 ou 5 ans, une mère supérieure de l'école religieuse où vous vous trouviez à ce moment-là en Bretagne, vous avez fait répéter ces mots « eau, terre, air, feu, eau, terre, air, feu ». Donc il reste quelque chose d'un rapport, pas magique, mais enfin d'un rapport tout de même spécial à la religion.
Les éléments,
là-bas.
C'est effectivement, c'était peu courant de voir une dominicaine, une mère supérieure dominicaine, invoquer ainsi les éléments comme quelque chose d'essentiel à transmettre aux enfants de la toute petite classe auquel j'appartenais alors, oui.
Du coup, il y a beaucoup de pèlerinages aussi en Bretagne. Vous en parlez assez largement dans votre livre, Aliette Armel. Des pèlerinages, on en parlait déjà en 1971 dans cette archive de la paysanne et poétesse du Trégor, Angela Duval.
Les gens qui allaient en pèlerinage par délégation.
Ah oui.
Racontez-moi ça.
Oh, comment je vous raconterai ça? J'ai connu un couple toujours. On l'appelait Pochon, le bonhomme s'appelait Pochon, et sa femme c'était Soas Pochon. Elle était laveuse, mais à l'occasion, elle allait comme ça en pèlerinage aussi. Mais lui, le bonhomme, il était presque toujours en route comme ça. Il parlait un chemin.
Alors
comme...
ça se passait comment?
Bien, quand on avait des gens ou des bêtes malades, quand c'était trop loin, qu'on n'avait pas le temps d'aller ou qu'on n'était pas bon marcheur. Et puis, c'était plus chanceux d'envoyer un pauvre et d'aller soi-même.
Et on le payait comment? On lui donnait...
Oh, je me rappelle pas. On lui donnait un peu de monnaie et puis souvent on le payait en nature.
Oui.
Des pommes de terre ou du pain ou du lard surtout.
Mmh.
Oui. Et puis on lui donnait des provisions pour faire sa route quand il allait loin.
Sans oser le demander, Mathieu Garrigou-Lagrange.
J'imagine, Aliette Armel, qu'aujourd'hui on ne paye plus personne pour faire les pèlerinages à notre place en Bretagne, mais il y en a encore, même un certain nombre.
Alors, en fait, il y a des pèlerinages et des pardons.
Alors le pardon, c'est un pèlerinage, mais à la mode de Bretagne, si je puis dire.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, avec le christianisme celtique est arrivé aussi, c'était en Irlande, que cette idée du pardon que l'on pouvait obtenir, mais surtout qu'il fallait aussi donner aux autres, pouvait se faire grâce au fait de demander à un saint de vous accompagner sur ce chemin, même quand il était mort, de le retrouver. Puisque un saint, c'est quelqu'un qui a été comme vous, mais qui peut faire le lien avec Dieu. Et donc, le pardon est venu d'Irlande et s'est développé en Bretagne sur des lieux consacrés. Par exemple, la Troménie de Locronan, c'est sur le lieu où a vécu saint Ronan.
Donc c'est toujours une marche quand même. Mais
c'est toujours une marche.
Plus court qu'un pèlerinage?
Alors c'est plus court, effectivement, qu'un pèlerinage. Le pèlerinage auquel Angela Duval, alors les pèlerinages auxquels Angela Duval fait allusion, on est quand même en 1971 hein, quand elle parle. Hein. C'est pas si vieux que ça. Hein. Et ces pèlerinages-là sont les pèlerinages vers effectivement les lieux qui sont où on peut prier le saint, et le fait d'y aller est quelque chose qui aide à obtenir ce que l'on veut. Elle parle de bêtes malades. Si vous avez des bêtes malades, eh bien, on vous dit qu'il faut aller voir un tel, parce que les saints sont guérisseurs.
Mmh.
Pas seulement des bêtes, les saints sont... pour tous les événements de la vie, il y a un saint qui a une réponse.
Et le pèlerinage va où? Est-ce que ça reste dans la Bretagne?
Alors, il y en a plusieurs. C'est-à-dire, vous avez le pèlerinage qui va aller jusqu'au lieu du saint. Imaginons qu'on vous dise qu'il faut que vous alliez, qu'il faut aller consulter un saint, vous êtes dans les Côtes d'Armor... qu'on dit maintenant, Côte du Nord, du temps d'Angela Duval, et il faut aller consulter un saint qui est dans les Léons. Vous êtes dans le Trégor, il faut aller dans les Léons.
Ça reste des saints locaux.
Ça peut rester des saints locaux, mais ça fait quand même quelques kilomètres, parce qu'on fait ça à pied. Voilà. Alors, ou celui qui fait pour vous, fait à pied.
Mm-hmm.
Donc ça reste loin, et donc on lui paye la nourriture pour le temps qu'il y va, et qu'il en revienne. Et qui va le prier le saint pour vous. Mais ça peut être... Alors, le pèlerinage, c'est... Donc on va prier le saint, mais on peut aussi faire ce qu'on appelait le Traubraise. Et le Traubraise qui ont été remis en exergue récemment.
Dans les années 90.
Voilà, c'était le tour de la Bretagne, parce que les sept saints dont vous avez parlé tout à l'heure, qui font partie de ces saints qui sont arrivés, pour cinq d'entre eux, de la Grande-Bretagne, ils ont été nommés évêques en lien avec... par acclamation populaire, mais aussi en lien avec les politiques, et mérovingiens particulièrement. Et leurs sept évêchés font le tour de la Bretagne. Ça va de Vannes à Dol de Bretagne. Si vous suivez sur une carte, vous verrez les sept points. Et donc, le pèlerinage du Traubraise était sur 600 kilomètres, un pèlerinage qui se faisait aussi parfois en plusieurs haltes et qui était un pèlerinage de tout le tour de la Bretagne.
Et qui existe de nouveau hein, depuis 1994. De nouveau, alors on le fait pas en une seule fois, on le fait en plusieurs années.
Et voilà, on fait chaque année entre deux évêchés. Van Quimper, enfin voilà, et on les reprend et on fait entre deux évêchés dans un certain sens. Voilà.
Toujours pour rappeler à quel point la Bretagne est une terre sacrée et de sacrée à Liette Armel, cette question des pèlerinages est assez étendue puisqu'il y a même des pèlerinages islamo-chrétiens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit ?
C'est encore autre chose, c'est vrai, il y a une telle variété dans ce monde du sacré en Bretagne, qu'effectivement, on développe énormément de choses. Alors, il y a aussi d'autres sept saints. Là, je vous ai parlé, vous avez parlé des sept saints venus de Grande-Bretagne. Et puis, vous avez un lieu près de Lannion, près de Ploirette, vraiment dans un lieu un peu perdu, qui s'appelle Vieux Marché. Et là, vous allez trouver une chapelle qui est la chapelle des sept saints qui sont en fait les sept saints dormants d'Éphèse.
Il faut raconter un petit peu l'histoire. Qui sont ces sept dormants d'Éphèse ?
C'était des frères qui vivaient à Éphèse. Alors là, vous voyez, on est du côté de l'Asie mineure, par là. Et donc, ils vivaient et ils étaient persécutés parce qu'ils étaient chrétiens. Mmh. Et donc, comme ils étaient menacés de mort, les sept frères se sont réfugiés dans une grotte. Et qu'est-ce qu'a fait le Romain qui les persécutait? Eh bien, il les a enfermés,
ensevelis,
emmurés dans la grotte. On les a retrouvés 180 ans, je crois, après, dit la légende. On a ouvert la grotte et ils sont ressortis, comme vous et moi,
après bien avoir vivants. Longuement dormi.
Après avoir longuement dormi. Et évidemment, lieu de pèlerinage, immédiatement. Ça, c'est dès qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, les foules se déplacent et ça devient un pèlerinage. Donc, ce pèlerinage vient d'Asie mineure et on retrouve trace de ça en Bretagne, à Vieux Marché. Et celui qui a vu les correspondances entre la Gwerz, c'est-à-dire le chant épique traditionnel qui raconte l'histoire des sept saints, qui vient d'une Gwerz bretonne écrite au XIXe siècle, celui qui a vu la correspondance avec le Coran et certaines phrases qui se retrouvent dans le Coran, c'est Louis Massignon, qui est le grand islamiste et qui, pour essayer de mettre de la paix entre toutes les religions...
C'était le moment de la guerre d'Algérie aussi, ou c'était la fin ou la suite de la guerre d'Algérie?
Le début de la guerre d'Algérie, c'était même juste avant la guerre d'Algérie qu'a eu lieu le premier pardon islamo-chrétien à Vieux Marché, qu'a initié Louis Massignon.
Note de la Scola des moines de l'abbaye de Kergonan qui interprète le chant grégorien Qui Manducat. Nous sommes avec Aliette Armel pour parler de la Bretagne sacrée et de ses monastères qui sont fort nombreux. Aussi, l'abbaye bénédictine de Landévennec, par exemple, a été le fer de lance de l'épanouissement culturel de la Bretagne à l'époque carolingienne. Elle est célèbre pour son scriptorium où se croisent influence et tradition. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce scriptorium et ce qu'il renferme, Aliette?
Alors, il renferme beaucoup de manuscrits qui ont été faits justement à l'époque carolingienne, à partir du moment où ce monastère qui avait été fondé par un de ceux qui était le fils de ceux qui étaient arrivés de Grande-Bretagne, mais on est encore dans cette génération-là, donc tradition hérémitique de Saint-Antoine, une petite île juste à côté de Landévennec, puis il passe du côté de Landévennec, et petit à petit, cet hérémitisme devient plus communautaire. Et surtout, le roi carolingien impose que ça devienne une abbaye qui respecte la tradition bénédictine. Donc, Landévennec est la première abbaye bénédictine en Bretagne. Et avec le livre qui, à ce moment-là, devient quelque chose qui est mis en valeur, ce qui ne l'était moins dans la tradition hérémitique précédente. Et donc, entre autres, le scriptorium qui va enluminer des manuscrits. Et dans ces manuscrits de l'abbaye de Landévennec, qui sont maintenant répartis dans le monde entier, parce qu'il y a eu les invasions vikings, parce qu'il y a eu les guerres, eh bien dans ces manuscrits, on trouve des particularismes tout à fait étonnants dans les personnages représentés comme bibliques, mais qui sont bien souvent des personnages aussi des légendes celtiques et des personnages qui sont très très marqués par cette esthétique celtique.
Alors il faut nous parler aussi, Aliette Armel, de la forêt de Brocéliande, parce que la Bretagne sacrée, c'est quand même bien cette légende-là. Alors bon, première chose à dire, évidemment, la forêt de Brocéliande, ça n'existe pas. Ou alors peut-être que oui, ou alors certains imaginent qu'il y a une correspondance entre cette forêt mythique et puis une forêt réelle qui existerait en Bretagne.
Oui, alors en fait, c'est dans les écrits de ceux qui ont écrit tous ces textes, qui sont les premiers romans français, des Chevaliers de la Table Ronde, et qui reprennent cette, ce qu'on appelait la matière de Bretagne. Et effectivement, des scènes sont, même dans les tout premiers, situées dans la forêt de Brécilien. Et de là à dire que Brécilien, c'était la Bretagne et que c'était le centre Bretagne.
C'est quel genre de forêt? Ça ressemble à quoi? Est-ce que ça peut être suffisamment proche de la forêt de Brécilien telle qu'elle est décrite dans les légendes?
Et on disait qu'à l'époque où auraient existé les chevaliers de la Table Ronde, qui étaient plutôt de l'autre côté de la mer de la Manche, il y avait au centre Bretagne une forêt très profonde qui s'appelait la Douna. Dans ce nom. Alors, c'est aussi controversé actuellement, mais il y avait quand même, a priori, une forêt sans doute primaire dans le centre Bretagne, dont il reste des petits morceaux. La forêt du Helgoat, qui communique avec, par exemple, la forêt dite de Brocéliande, qui existe encore à l'heure actuelle, du côté de Rennes. Il y a des morceaux de cette forêt qui restent. Donc, elle existait vraiment. Mais toutes ces légendes, c'est justement les légendes de cette interaction entre ceux qui combattaient les Anglais saxons en Grande-Bretagne, qui traversaient la Manche pour se mettre à l'abri, qui revenaient, qui créaient aussi cette mythologie d'une chevalerie qui était très respectueuse des éléments sacrés, avec la quête du Graal au milieu de tout ça, mais aussi la façon, par exemple, de Tristan et Isolde de voir leur amour-passion. Et donc c'est... Oui, c'est quelque chose qui s'est forgé des deux côtés de la Manche et dont la forêt de Brocéliande, elle garde trace de lieux où l'on peut identifier notre imaginaire.
Des traces de noms, le roi Arthur, Merlin, Viviane, Morgane.
Et puis des traces de lieux. Le Val sans retour, c'est quelque chose d'absolument... Si vous n'y êtes jamais allé, allez-y, parce que c'est une espèce de vallée tirée... Enfin bon, Julien Gracq l'a merveilleusement décrite. Vous avez des endroits comme aussi la forêt, la fontaine de Barenton.
Alors, qu'est-ce que c'est la fontaine de Barenton, précisément?
Alors, la fontaine de Barenton, ça se trouve justement au milieu de ce qui reste de la forêt, qui est très aménagée. Et donc, on n'est pas du tout dans quelque chose de très sauvage. Mais on peut voir l'idée, l'imaginaire du sauvage. Et on arrive et on voit là, de l'eau s'est aménagée, de l'eau qui court, et donc qui, évidemment, est dirigée vers une fontaine. Et au lieu que la fontaine soit érigée de manière verticale, en fait, les contours de l'eau sont aménagés de manière horizontale, avec une espèce d'ogive comme ce que l'on fait verticalement quand on fait une fontaine d'ordinaire. Et à cet endroit, il y a un endroit où c'était une pierre, où on pouvait, en y versant de l'eau, déclencher des orages, déclencher la pluie, déclencher des tourmentes. Et un chevalier surgissait ensuite pour combattre ceux qui avaient déclenché les orages.
Le phénomène météorologique est très important en Bretagne, on ne dira jamais assez.
Voilà.
Que dans une même journée se succèdent, comme sur une île d'ailleurs, hein, puisque on l'a rappelé, il y a trois façades maritimes sur le pourtour de la Bretagne. Comme sur une île, il y a plusieurs moments
dans la
journée, météorologiques
tout à fait.
Dans la journée.
Voilà, c'est rare qu'il ne fasse pas beau à un moment de la journée au moins.
Thank you. Il pénètre dans un bois et se plaît à rester caché sous les frênes. Il voit avec émerveillement les bêtes farouches paître les herbes des pâturages. Pour se nourrir, il déterre les racines des plantes, il coupe les herbes, il cueille les fruits des arbres et les mûres des buissons. À partir de ce moment, il devient un homme des bois. Il le vit comme s'il était un fils de la forêt.
Sans oser le demander, avec aujourd'hui Aliette Armel. On n'a pas vraiment dit ce que signifiait Armor, le Armor d'Armorique.
Bah, Armor, c'est la mer. Et donc, en fait, la Bretagne, il y a deux zones. Il y a l'Armor et l'Arquat. L'Arquat, c'est la région des bois, c'est le centre, et qui est beaucoup plus rude, y compris au niveau climatique, que les bords de mer, qui, évidemment, sont face aux tempêtes, mais sont quand même tempérés par l'aspect maritime. Et donc, c'est l'Armor qui a d'abord été mise en valeur, a priori, et le centre Bretagne est resté beaucoup plus rude, mais aussi des pays de marché, mais aussi des pays où on a fait des cultures, mais aussi, c'est aussi une région qui s'est beaucoup développée, mais par la suite, si on prend les périodes historiques.
Il y a des gens de mer et des gens de terre en Bretagne, comme il y a en Méditerranée, par exemple, des gens de la mer à Marseille, et puis des gens de l'arrière-pays qui se considèrent comme étant très différents. Est-ce qu'on retrouve un petit peu la même chose aussi en Bretagne ?
Tout à fait, mais même des fois dans les villages. Alors, en bord de mer, très souvent, les gens sont tournés vers la mer. Il y avait des marins, etc. Mais alors, les maisons n'était pas tournée vers la mer, elle se protégeait de la mer. Et c'est maintenant, avec les touristes, qu'on fait des maisons qui sont ouvertes sur le large. Et certains, la mer, elle a fait peur très longtemps.
Mais là où vous vivez, justement, à l'Étarmel, il y a cette maison qui est très étonnante parce qu'elle est enserrée entre deux immenses rochers qui sont plus grands qu'elle, à droite et à gauche. D'où ça vient? Pourquoi est-ce qu'on construisait comme ça des maisons? Est-ce pour se protéger?
C'est une maison qui a été faite par un scientifique de la fin du 19e siècle, un ingénieur, et qui a eu l'idée, effectivement, de construire cette maison entre les deux rochers pour faire une prouesse un petit peu architecturale et avec en aménageant par derrière, du côté, avec des petites cabanes, des petites choses particulières pour donc c'est vraiment quelque chose qui a été fait architecturalement comme une expérience et qui ensuite...
Donc ça n'a rien de breton particulièrement.
Il était breton et celle
qui l'habite... La petite maison est bretonne aussi.
Bretonne et sa descendante qui l'habite est très bretonne elle aussi. Mais en fait, c'est une maison aussi qui a été mise en exergue, vous savez, par une campagne de publicité de la région Bretagne à un moment et qui a mis très en colère les propriétaires de la maison, justement. Mais très souvent, quand même, on s'appuie sur un rocher. Ça, il n'y a pas que cette maison qui est construite au bord d'un rocher, s'appuyant sur un rocher, au milieu des rochers. Il y en a beaucoup d'autres.
Il faut dire, comme l'expliquait Julien Gracq, que des rochers, il y en a partout.
Une certaine frontière intime de l'âme s'éveillera toujours en Bretagne. Ni le calot théâtral de la montagne, ni la nudité du Causs, mais partout, le sentiment de la peau sur les os. C'est le paysage de la Bretagne. Du haut du Ménéum, vers les lointains de la montagne noire, on voit les lourdes crêtes en dos de baleines bosselées, percées de place en place par la ligne de vertèbres des chicots de grès. À Ploumanac, on dirait que la mer travaille seulement à dégager de la terre les solides de sa destination profonde, molaires, vertèbres, rotules, calcanéums. Partout perce du sol le monument emblématique qu'en a tiré le plus profond génie de cette terre, la pierre dressée. Et cette création brute apparaît dans la suite des temps si parfaitement satisfaisante que l'Église même s'y résigne et, au menhir christianisé de Brigognon, se borne à le contresigner. Il y a la solidité bretonne, il y a aussi l'anarchie bretonne. Je ne sais quoi d'inachevé et de provisoire s'attache à la manière dont l'homme s'est fixé sur ce terroir. Quand on approche de la mer, c'est une débandade. On dirait d'une foule encore clairsemée qui s'est mise en route en désordre pour venir constater les dégâts d'une tempête ou d'un raz-de-marée, et tout s'est figé dans la posture de l'étonnement ou de la stupeur. Les maisons ici ne digèrent pas, ne dorment pas, mais regardent.
De Julien Gracq, Aliette Armel, est-ce qu'on peut évoquer la Bretagne sans parler à un moment ou à un autre de Julien Gracq? Peut-être pas.
C'est vrai que pour moi, c'est quelqu'un effectivement qui a très bien parlé de la Bretagne. Il n'était pas breton, comme tout le monde le sait, puisqu'il vivait en bord de Loire. Mais
Du coup, il y a des débats là-dessus. Hein,
mais... Ah bon, d'accord.
Est-ce que Nantes est breton? Est-ce que...
Enfin, lui, ah était oui, encore mais plus il n'était pas à Nantes quand même. Hein, je pense qu'il était... Bon. Donc, il a... La Bretagne, c'était de cœur pour lui. Et il y allait souvent et il y a fait des observations. Il a été sur les lieux très orienteux, que là où il y a, à Brocéliande, par exemple, la chapelle du Graal. Il a fait des descriptions extraordinaires de ce lieu qui était alors très marqué par sa misère de l'époque. Et puis, il a vraiment parlé... De perçu ce qu'il y avait de très profondément ancré dans la Bretagne, sans cette forme de sacré qui m'intéresse. Mmh. Il
comme
l'a vraiment perçu.
Dans l'avant-propos du roi pêcheur, quand il écrit « J'ai fait de mon salvage un château inaccessible, j'ai cherché la forêt obscure, le Graal est là, quelque part, on le sait, la Bretagne en est possédée, les vieux en parlent à la veillée, les poètes en tirent merveille, les meilleurs à la cour d'Artus s'en enivrent jusqu'à la folie. » C'est bien ça, la Bretagne
oui,
sacrée
alors,
que vous partagez avec Julien.
Voilà, Gracq. Tout à fait, et on lui a beaucoup reproché à l'époque du roi pêcheur, après la Seconde Guerre mondiale, de faire une lecture, de prendre des thématiques si à l'époque si considérées comme passéistes et dont on ne voyait pas l'intérêt. Et on lui a particulièrement reproché d'essayer de sortir le Graal de sa dimension uniquement religieuse et chrétienne pour justement lui insuffler un sens beaucoup plus mystique, beaucoup plus général et d'une tension de l'humain justement vers un absolu qui, pour moi, s'incarne beaucoup en Bretagne, oui.
Aujourd'hui, la Bretagne, elle est déchristianisée, comme l'ensemble de la France, mais il reste tellement de petites églises qu'on sent tout de même la place de la religion. D'ailleurs, il y a beaucoup de chapelles également, et là où vous habitez, à Plougrescamp, il y a la chapelle de Saint-Gonéry. On peut peut-être aller la voir si on est près de Plougrescamp. Elle est intéressante, il y a des fresques.
Et des fresques du XVe siècle, qui une charpente qui est tout à fait, enfin, complètement illustré de fresques très colorées de l'Ancien et du Nouveau Testament, et selon des traditions, alors avec beaucoup d'habits byzantins pour ceux qui apparaissent sur les fresques, et donc toute une tradition qui circulait au XVe siècle en Bretagne, sans doute par les mystères qui étaient joués au théâtre dans ce qui n'était pas encore des enclos forcément paroissiaux, mais devant les chapelles. Et donc, oui, et ça a fait l'objet d'une restauration. Et c'est ça qui est très intéressant dans cette Bretagne déchristianisée dont vous parlez. C'est qu'effectivement, sur les 6500 chapelles qui existaient au moment de la Révolution, évidemment, beaucoup sont tombées en désuétude et les descriptions qu'en donnent les textes du 19e et même du début du 20e siècle sont justes. Elles étaient vraiment... pour la plupart, elles ont disparu. Mmh. Et en fait, il y a beaucoup d'endroits où, évidemment pour des régions patrimoniales, évidemment pour des raisons éventuellement touristiques ou d'économie actuelle, mais aussi beaucoup par l'impulsion donnée par des groupes qui se constituent et qui peuvent être justement des groupes qui sont à la fois de... comme je disais, de nés natifs du pays, de gens qui sont venus y habiter, et même de gens qui n'y viennent qu'à certaines périodes de l'année, tout le monde s'unit pour trouver les moyens et pousser les politiques et les administrations à restaurer leur chapelle. Mais pas uniquement comme ça se fait dans d'autres régions de France, parce que justement c'est une question de patrimoine et puis on va en faire un centre culturel. Non, pour continuer à ce que ce soit une chapelle.
Et c'est là où le sacré, encore une fois, imprègne toujours aujourd'hui les Bretons d'adoption et puis les Bretons qui sont nés en Bretagne. Merci beaucoup Aliette Armel pour ce voyage dans ces terres sacrées, voyage qui se poursuit avec vous. Romain de Bec-de-Lièvre, bonjour.
Bonjour Mathieu et bonjour à tous.
C'est le moment de votre pièce jointe.
Né en 1914 sur l'une des pointes avancées de la Bretagne dans le village de Pouldrezic, à l'ouest de Quimper dans le Finistère, l'écrivain Pierre Jacques Elias est l'auteur d'un récit extraordinaire intitulé « Le cheval d'orgueil ». Pourquoi ce titre ? Parce qu'Alain Le Goff, son grand-père, paysan pauvre du pays Bigoudin, ne possédait pas de cheval, si ce n'est celui, immatériel et puissant, de l'orgueil. Pierre Jacques Elias consigne et accumule dans ce récit autobiographique une collection pharaonique de détails de la vie bretonne au début du XXe siècle. Les vêtements, la nourriture, les paysages, les chemins, les légendes et les contes oraux, la forme, l'espace et l'organisation de la ferme familiale, les systèmes de culture et les cultes bretons, tout défile sous la plume de l'écrivain bercé par Giono, les légendes celtes et les flux de grande prose, mais soudain, au milieu de son récit, un homme apparaît. Une ombre énorme bouche complètement la porte ouverte sur le soleil du dehors. Est-ce que ce sont des manières ? Quelqu'un de notre compagnie n'entrerait jamais ainsi sans s'annoncer dès le dehors, sans demander à haute voix s'il y a quelqu'un. C'est sûrement un étranger. Donc un danger pour moi. J'ai appris à me défier des femmes sans coiffe et des hommes qui ne portent pas au moins une casquette à défaut d'un chapeau à ruban. Je reste immobile sur ma marche d'escalier, tout le corps noué d'angoisse. L'étranger avance dans le couloir, tranquillement, comme quelqu'un qui rentre chez lui. Sans m'accorder un regard, il entre dans la cuisine. Maintenant, je le vois distinctement. Sur la tête, il a un chapeau en forme de marmite renversée. Il est vêtu d'un long manteau noir avec de la fourrure au col, en plein été. Sous le menton, il porte un col blanc à grande pointe cassée et une cravate noire à nœuds avec quelque chose qui brille dessus. C'est un monsieur. Il revient vers moi, puis il me prend la joue entre le pouce et l'index, et j'entends sa voix rude. J'entends, mais je ne comprends pas. Il doit parler français. Des mots français, j'en ai déjà entendu, mais ce n'était pas cela. Soudain, j'éclate en sanglots, et lui se fâche. Il n'a pas l'air commode, cet homme-là. Un instant après, il me demande, en breton cette fois, « Il n'y a que vous à la maison, où est votre père ? Vous direz à votre père que Monsieur Le Bail est venu le voir. Monsieur Le Bail de Plozévet. Vous vous souviendrez ? Monsieur Le Bail. » L'homme qui vient d'entrer ainsi sans manière dans la maison du jeune Elias terrorisé, cet inquiétant monsieur Le Bail, n'est autre que le député maire de la commune de Plozévet, Georges Le Bail. Il siège à la chambre où il représente une fraction de ce que l'on appelait alors les Rouges, en guerre sourde contre les Blancs. Le parti des Rouges défend la République et l'école publique, car elle représente, je cite Elias, le seul bien qui ne se lègue pas de père en fils, par opposition aux Blancs qui ont pour eux l'église bretonne. Monsieur Georges Le Bail est donc venu de Plozévet pour informer la famille du jeune Elias qu'il doit apprendre le français et par conséquent commencer à se défaire de son breton maternel. Et c'est la première intrusion violente d'un dehors politique et linguistique dans la vie d'un enfant.
Merci beaucoup Romain pour cette évocation du cheval d'orgueil, donc de Pierre Jacques Elias. On la retrouve cette chronique sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. C'était Sans oser le demander avec aujourd'hui Aliette Armel, autrice du livre La Bretagne, terre de sacré, qui vient de paraître, c'est aux éditions d'Esclé de Brouwer.